Merci William Fritz d'avoir voulu nous recevoir ici chez vous, à Glen Brooks.
À Jean Blou.
Jean Blou. À Jean Blou.
En Wallonie, donc c'est une terre romane, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que parfois, quand on parle de la Wallonie, les Français disent, ah bon, ils croient que c'est une terre de langue germanique. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas le premier Français qui dit Gembloux, j'ai envie de les Gembloux. Non, c'est tout simplement Jean Blou. Les habitants de Jean Blou sont des gens bloutois. Mais en Wallon, qui est le dialecte romand que nous parlons ici, c'est Giblou. Et alors, les habitants s'appellent les Giblotins. Donc, ça s'appelle les Diablotins. Vous savez qu'il y a trois écrivains très connus, Jean Bouctois, hein. Il y a votre humble serviteur, et puis il y a Jean-Claude Pirotte, qui est Jean Bouctois, et Jean-Pierre Verheyen, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Verheyen, également Jean Bouctois. Et alors, il y a sur la place de Jean Blou, la place de Saint-Guibert, une statue, je ne sais pas si vous avez vu cette statue, vous n'êtes pas allé dans le centre encore, où on voit un homme en train d'écrire. Donc, est-ce que ce serait ça peut-être qui a provoqué cette. Parce qu'il y a d'autres écrivains d'origine jean-boutoise. C'est donc un moine du Moyen-Âge qui s'appelle Sigibert de Jean Blou, qui est de réputation mondiale. Parce qu'il a laissé une chronique qui reprend, si vous voulez, l'histoire humaine depuis les origines jusqu'à son époque, c'est-à-dire en 1104. Donc, pour. La chronologie et pour les événements, enfin, c'est une source, paraît-il, extraordinaire. Donc, elle se trouve ici à la Bibliothèque Royale de Belgique, mais elle est connue dans le monde entier par les historiens. Soit.
Bon. Alors, William, que vous naissez ici donc en 1940.
Oui.
Vous, dans un livre récemment publié en février 2004, qui s'appelle La Doge aux éditions Anatolia du Rocher, vous décrivez le voyage qu'a fait votre père lors de l'invasion par les Allemands, oui. L'invasion allemande qui déferlait donc sur la Belgique avec cette peur qu'avait la population, on les comprend, oui. De ce qu'ils avaient retenu de la guerre de 14-18. Oui. Et donc votre famille, avec cette magnifique voiture, la Dodge, arrive dans la région toulousaine.
Oui.
Donc, vous savez que Radio Occitanie vous a consacré depuis maintenant une vingtaine d'années tout un tas d'émissions. J'ai le plaisir de vous le dire. Mm-hmm. Et j'ai lu souvent vos textes à la radio. Ce sont des textes très narratifs. Au contraire, une espèce d'épopée dans les textes que vous venez de lire de Adieu Patrie. Ce sont des textes de voyage dans lequel, oui. Bon, et qui passent très très bien, justement, comme tu ne. Ce sont des textes merveilleux pour la radio. Donc je reprends mon récit. Vous arrivez donc à Toulouse avec.
Moi j'étais dans le ventre de la mer.
Donc vous étiez, voilà, dans le ventre de la mer. Donc j'ai dit.
J'avais été conçu quelques mois auparavant, mais j'ai été du voyage.
Voilà. Hein. Donc, il y a une imprégnation toulousaine chez William Pitt, il y a une imprégnation
toulousaine. Oui. En plus, ma mère aimait beaucoup la région, elle aimait beaucoup la chaleur.
Oui,
c'est la première fois qu'elle découvrait donc, oui. le soleil du, oui. midi, etc.
Oui, elle s'y serait plus. Votre mère, apparemment, elle serait bien restée.
Ah oui, oui, oui. Elle était très heureuse. Dans l'idée. Et alors, ils ont résidé dans un petit village qui s'appelle Sepet. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose.
Oui.
Donc, c'est là que mon père a été mis en résidence pour remplacer le médecin qui était mobilisé.
Oui,
oui. Et tout de suite, mon père a dû faire des visites à vélo dans la région.
Et puis il retourne dès la capitulation française, il retourne donc à Jean Blou.
À Jean Blou.
Jean Blou. Jean Blou. vous les restez. Vous,
oui,
vous faites.
Pratiquement, Jean Blou.
Vous faites remarquer en 1973. Par la publication, enfin en tout cas c'est moi la première fois que je vous ai lu, c'était cette époque-là.
Ah bon.
Par la publication de Homo Sum chez Gallimard, donc d'entrée vous faites quand même très fort puisque vous êtes publié chez quand même l'éditeur, un des éditeurs les plus prestigieux de France, avec une préface de Raymond Queneau. Qui,
non, de Claude Roy.
Claude Roy, pardon.
J'avais envoyé mes poèmes à Raymond Queneau. Et alors, Raymond Queneau publié dans ce même recueil de, qui s'appelait donc Cahier de poésie, il a publié aussi un autre poète, et alors Raymond Queneau a, introduit ce poète-là, tandis qu'il a demandé à Claude Auroi de me, présenter.
Oui, exact.
Oui, oui. Donc, mais enfin, mon éditeur, oui, c'était effectivement
c'était, Raymond Queneau. Raymond Queneau. Oui. Donc c'est Raymond Queneau qui a été la, personne donc, qui vous a un petit peu imposé dans le monde poétique de, cette époque-là.
Oui.
C'était une rupture hein, par rapport à ce qu'il faisait, dans les années 70, où il y a, je pense, un petit peu un décrochage hein, du, lecteur de poésie par rapport à ce, qu'on avait connu dans les années 60. Les années 70, c'est un peu la poésie laboratoire, etc. Et votre voix, elle introduit, à mon sens, quelque chose de, d'un peu différent. C'est-à-dire qu'elle remet un lectorat potentiel poétique, elle, remet un peu sur, sur les rails. En étant une, poésie, au contraire, quand même, à la fois dans, cette, récupération de la forme traditionnelle, donc dans la contemporanéité, et en même temps aussi, quand même, dans le, sujet qui, qui était à cette époque-là, un sujet assez provocateur.
Mais, oui, c'est-à-dire que la simple provocation de la poésie que j'écrivais et que j'écris toujours, c'est que justement le sujet en est la contemporanéité, c'est-à-dire la, vie que, chacun de nous mène au jour le jour, dans la, société,
oui. Hein, sur, dans, la société. Ici et maintenant.
Ici et maintenant, voilà. Donc, c'est ça, c'est le, monde concret de notre vie à tous. Et qui, est le, la matière même de notre existence. Enfin, c'est ça que, dont je parle dans, mes poèmes. Et par exemple, il y avait, pour, m'introduire en tant que belge, hein, parce que je vois que Aurélie, qui fait son mémoire de, maîtrise sur William Cliff, insiste beaucoup sur le fait que je suis belge. Eh bien. Eh bien justement, il y avait à l'époque une espèce de honte de la part des écrivains belges d'avouer, je dirais, leur belgitude. Et moi, d'entrée de jeu, j'ai dit ça, c'est parce pourquoi ? Parce que c'était ma réalité, hein, voilà. Et il n'y a pas seulement, ce qui va être provoquant peut-être, effectivement, c'est mon goût pour les garçons, de, dans ma vie sentimentale, j'ai toujours une attirance pour les garçons. Et alors, je l'ai dit aussi tranquillement, enfin tranquillement, peut-être pas très tranquillement, je l'ai dit vertement. Et voilà, les, interpellations de la société contemporaine telles qu'elles existent dans leur vie concrète, c'est ce que j'ai dit. Dans ma... ça, tranchait, voyez-vous, parce que justement la poésie était à l'époque très, très abstraite, hein, très abstraite. On aurait considéré comme... une dévaluation du poète que de parler de ces choses tout à fait terre à terre, parce que il y avait dans la poésie française l'image toujours emblématique d'un Rimbaud par exemple qui est illuminé, ou bien d'un Mallarmé qui lui est pour l'art pour l'art, et d'un vers extrêmement travaillé, même jusqu'à la l'horreur, enfin, ou la fascination de la page blanche, et puis le fameux texte, un coup de dé n'abolira jamais le hasard, ou qu'est-ce que c'est un texte où vraiment, là, il s'agit à ne dire strictement rien. La, la fascination du non-sens, l'horreur de s'abaisser à dire quelque chose qui pourrait signifier quelque chose. Donc, voilà, ça c'est un petit peu l'obsession, c'était les, deux poètes, je dirais. Et moi j'ai pris exactement le contre-pied de, cela, et donc ça, faisait une, différence.
Alors, donc, avec votre poésie, vous on réconcilie un peu ce lectorat de la, poésie avec, avec la vie courante, avec les préoccupations, je dirais, essentielles. De tout le monde, et, donc il y a un caractère universel qui, naît immédiatement de, ces textes. C'est un peu le paradoxe, de dire quelque chose qui peut être anecdotique.
Oui.
En fait, vous arrivez à dire quelque chose qui peut concerner, je crois, vraiment l'humanité dans sa totalité. Quoi. C'est ce qu'il y a de... Je trouve moi de
vous n'êtes pas premier à me le dire, c'est que je trouve merveilleux, et je vous remercie de me le dire, mais plusieurs personnes de tous bords me l'ont dit, alors que je raconte des choses extrêmement concrètes, enfin, des gens s'y reconnaissent, alors que ce que je raconte n'est pas ce qu'ils vivent, eux, ou ils le vivent d'une façon, mais peut-être que dans l'arrière-fond, c'est ça, je ne sais pas. Enfin, voilà.
Et puis ça, c'était une telle rupture avec ce qui se faisait dans les années 70, hein, Philippe Solers, Denis Roche, etc., cette poésie très savante.
Mais, apparemment savante, mais excusez-moi, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je ne suis pas d'accord non plus avec... ils exerçaient une espèce de terrorisme intellectualisant, mais si vous regardez attentivement ce qu'ils disent, ça ne tient pas, vous comprenez? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce prestige... cette autorité qu'il prétend exercer, parce que ça ne tient pas. Linguistiquement, ça ne tient pas. Je veux dire, intellectuellement, parlant, si vous analysez, ça ne tient pas. C'est du verbiage intellectualisant, mais qui ne tient pas. Voilà.
On est totalement d'accord avec vous. Mais quel succès à cette époque-là?
Ah ben oui, ça, c'est ça. Ça tient au caractère, excusez-moi, ça tient au caractère. Français, qui se laisse facilement, n'est-ce pas, séduire par justement un certain clinquant intellectualisant. Ça fait bien, c'est dans la ligne de Valéry, par exemple. Valéry, pour moi, Valéry, si vous lisez ses cahiers, etc., philosophiquement parlant, c'est faux. Ça ne tient pas non plus. C'est de nouveau de l'esbrouffe intellectualisante, mais qui n'a aucune consistance réelle, philosophiquement parlant. Mais seulement, ça fait bien. Dans les Français qui aiment un peu la frimerie, si vous voulez, ben ils marchent. Mais moi, je ne marche pas. Parce que je suis un Belge avec les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de plomb dans la cervelle, hein, attention.
Mais je crois que quand même, ce mouvement a fait beaucoup de mal parce qu'il y a eu un malentendu. Et donc, il y a tout un public qui a fui la poésie.
Ah c'est oui, ça. Évidemment, ça, évidemment.
Tout et si on dit que c'est ça. 20 ans pour arriver à... C'est la fin des années 80, on repart un petit peu, et je crois qu'il
Y a un regain d'intérêt. Malgré cette influence extrêmement nuisible, mais malgré cela, il y a une perpétuation en France de l'intérêt pour la poésie. Oui. Ça, c'est très beau, parce que ça n'existe pas partout. Hein. Oui. Par exemple, en Espagne, il y a... Alors que la poésie espagnole était magnifique, il y a eu, je pense maintenant, il y a une chute, et même aux États-Unis par exemple, alors que la Beat Generation par exemple, hein, qui a eu un gros succès, etc., je pense qu'actuellement la poésie aux États-Unis, alors qu'elle a connu une efflorescence extraordinaire, hein, après Carlos Williams était à la Beat Generation, et puis.
Allen Ginsberg, qui est d'une récitale, même avant lui, Dylan Thomas, quand on écoutait Dylan Thomas à la radio, il y avait des centaines de milliers de gens qui écoutaient.
Ça, c'était anglais, hein, c'était Dylan Thomas, oui. Mais oui, mais écoutez, c'est un génie.
Alors, William Cliff, vous vous retrouvez dans les années 60 à Barcelone, une ville qui est... Dans les années 60, une ville qui est pleine de vie, qui était extraordinaire.
Pour moi, c'est extraordinaire. C'est dans le genre bleu, vous imaginez. Bonjour, je suis passé, j'ai Paris, etc. Mais pour moi, c'était vraiment. J'ai découvert vraiment ce qu'on appelle la Méditerranée. Ce grouillement de population, etc.
Les Ramblas, Mario Chino, qui existaient encore à cette époque, qui a été démoli depuis.
Ah oui, justement.
Pour les Jeux Olympiques, mais bon, cette ville. Qui était d'une
bouillante de vie. Voilà, les gens vivent dans la rue. Parce que, évidemment, étant donné l'exiguïté des habitations, je ne sais pas.
Puis c'est la mentalité.
C'est la mentalité, exactement, la mentalité des gens qui sont dans la rue, qui parlent dans la rue, qui enfin, qui se montre dans la rue. Ça, j'ai bien expliqué dans mon livre autobiographique, justement, que vous ne connaissez pas, mais dans mon autobiographique, il y a tout un passage sur Barcelone qui. Je pourrais peut-être vous en lire quelques.
Ah, mais ce sera avec grand plaisir.